Bonsoir. Publication hier dimanche du gouvernement Matata 2. Sept personnes font partie de cette équipe, dont 3 vice-premiers ministres, 2 ministres d'État, 32 ministres et 10 vice-ministres. 7 membres de l'opposition font leur entrée dans ce gouvernement. Quelle analyse faire du gouvernement Matata 2 pour en parler? Je reçois dans cette émission pour le débat André Alain Atundu, cadre de la majorité et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR en sigle. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Martin Mukonkole, secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement, parti de l'opposition. Monsieur Mukonkole, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Moyela Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique des Nancy en France. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La nouvelle équipe du gouvernement Matata 2 est là. Après plus d'une année d'attente, l'annonce du remaniement a été faite sur les antennes de la télévision d'État hier dimanche dans la nuit. Matata Mponyo s'y maintient comme premier ministre. Il sera secondé par 3 vice-premiers ministres, 2 ministres d'État, 32 ministres et enfin 10 vice-ministres. Dans la foulée, sont nommés vice-premiers ministres Évariste Bouchap, secrétaire général du PPRD, Thomas Louaka, secrétaire général du MLC et Willy Makiachi, secrétaire permanent du Palou. Il occupe le poste de vice-premier ministre chargé de l'emploi. Onésime Mukandila nous en dit plus.
Au niveau des ministres d'État, 2 grands noms sont à retenir au budget. Michel Bongongo de l'UFC de Léon Kengo, tandis qu'à la décentralisation affaire coutumière, on retrouve Salomo Banamouere. De nombreux entrants et sortants, certains se maintiennent et d'autres sont permutés. Le chef de l'État en a décidé ainsi. Sur la liste d'entrants, on peut citer Mengoy Mukena à la Défense nationale, Alexis Tambwe Mwamba à la Justice, Olivier Kamitatu au Plan, Germain Kambinga à l'Industrie, Matadi Nenga Janou à l'Énergie, Elvis Moutiri au Tourisme, Théophile Bemba Fundu à l'Essure, Omer Egbake à l'aménagement du territoire, Eugène Siroufouli au développement rural. Se maintiennent Raymond Chibanda aux affaires étrangères, Louise Munga au portefeuille, Lambert Mende à la communication et médias, Maker Mwango à l'EPSP, Jean-Claude Kibala à la fonction publique, Ridolin Kasuichi aux ITPR, Martin Kabouiloulou aux mines, Crispin Atama aux hydrocarbures, Félix Kabangenoumbi à la santé publique, Justin Kalumba aux transports et voies des communications. Parmi ceux qui quittent le gouvernement, Daniel Moukoko Samba, Patrice Kitebi, Alexandre Loubatam, Bavon Sampoutou, Célestin Vounabandi, Jean-Chrysostome Vahamwiti, Jean-Paul Nemoyato, Rémi Moussungaï, Robert Mwinga et Charles Nawej Mundele. Sont permutés Trifon Kinkie Moulumba aux relations avec le Parlement, Bahati Lukwebo à l'économie. Sachez qu'aucun des anciens vice-ministres n'a été maintenu, à l'exception de Maggie Rouakabouba, qui est à l'énergie.
Merci Onésime Mukandila. Le gouvernement présente quelques caractéristiques. C'est notamment l'éclatement des ministères, la création et la suppression de certains d'entre eux et le quota des femmes qui a un peu augmenté au vice-ministère. Nous sommes Linga pour les détails.
Si le gouvernement Matata 1 comptait 26 ministres, 2 vice-premiers ministres et 7 vice-ministres, Matata 2 a 32 ministres, 3 vice-premiers ministres, 2 ministres d'État et 10 vice-ministres, soit 35 membres pour Matata 1 compte 47 pour Matata 2. Le quota des 3 femmes ministres est resté pareil, cependant ce quota a doublé pour les femmes vice-ministres, il est passé des 2 à 4. Au ministère de l'Intérieur et Sécurité, on a amputé la décentralisation et des affaires coutumières pour en faire un ministère à part. À l'EPSP, on ajoute l'initiation à la nouvelle citoyenneté et on soustrait l'aspect professionnel pour en faire un ministère de l'enseignement technique et professionnel. Pareil pour l'enseignement supérieur qui se sépare d'avec la recherche scientifique et technologie. Le tourisme est aussi détaché de l'environnement tout comme l'économie nationale est séparée du commerce. Des petites et moyennes entreprises et classes moyennes font un ministère à part ne relevant pas de l'industrie. La jeunesse, sport et loisirs redeviennent comme par le passé un ministère séparé de la culture et art. L'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat ne plus rattaché aux infrastructures et travaux publics. Les ministères des affaires sociales et action humanitaire disparaît, tout comme la francophonie qui était autrefois collée aux affaires étrangères et coopération internationale ne figure pas dans ces nouveaux gouvernements. La nouveauté de ces gouvernements, c'est d'avoir créé des ministres d'État.
Merci Innocent Olinga. André Alain Atundu, je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR en sigle. Comment vous analysez ce gouvernement Matata 2? On a suivi lors de la publication de l'ordonnance présidentielle, on a parlé dans le communiqué des restructurations. S'agit-il d'un gouvernement restructuré ou d'un gouvernement de cohésion nationale?
Les deux ne se contredisent pas. Restructuré, comme on l'a annoncé officiellement, avait comme objectif et fond d'ailleurs la cohésion nationale à travers la réalisation des 700 recommandations des concertations nationales. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un ouf de soulagement dans l'opinion parce que pendant 12 mois à peu près, le pays était en apnée. Maintenant, le gouvernement, l'économie peut respirer parce que les membres du gouvernement ont la légitimité de la fonction.
Alors, vous parlez de gouvernement, de cohésion nationale. Est-ce que cette cohésion existe lorsqu'on retrouve 7 membres de l'opposition sur les 47 qui composent ce gouvernement Matata 2?
Ah oui. Parce que c'est tout à fait conforme aux dispositions constitutionnelles. La représentation est fonction, la représentation gouvernementale est fonction de l'importance dans le Parlement. Et l'élément spécifique, c'est que le président de la République avait promis, à l'issue des concertations nationales, il y aura une ouverture vers l'opposition. Et je crois que c'est tout à fait logique et c'est fait.
Alors, le quota pour les femmes n'a pas été respecté. 4 femmes seulement, disons 7 femmes seulement dans ce gouvernement.
Oui, oui, parce que je crois que la problématique de la femme est entière. Il ne s'agit pas de prendre une personne parce qu'elle est femme, il faut prendre une femme parce qu'elle est compétente, parce qu'elle répond à certains critères. Parce que la formation d'un gouvernement, ce n'est pas seulement le critère homme et femme, même si c'est constitutionnel, mais il y a aussi l'équilibre, il y a les objectifs ponctuels, il y a toute une cuisine interne qu'il faut respecter. Mais je pense que vous-même vous l'avez dit, il y a une petite amélioration de la situation de la femme dans le gouvernement. Il faut s'en féliciter en tout cas.
Alors, André Alain Atundu, on retrouve dans ce gouvernement de cohésion nationale, c'est vrai, vous avez parlé de l'opposition qui a fait son entrée, et principalement le MLC, alors que d'autres partis de l'opposition ne se retrouvent pas. Est-ce qu'on peut parler de cohésion lorsqu'il n'y a qu'un seul parti de l'opposition qui est dans ce gouvernement?
Est-ce que tous les partis de la majorité s'y retrouvent? La cohésion est une disposition d'esprit, n'est-ce pas, vers un objectif, c'est-à-dire une action dans la synergie. Eh bien, l'essentiel, c'est que la majorité est représentée, l'opposition est également représentée. Je crois que c'est ça la cohésion. Et l'objectif, c'est de travailler la main dans la main pour soulager tant soit peu la situation de nos populations et consolider l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire.
Alors, on est passé de 35 membres Matata 1, le gouvernement Matata 1, à 47 membres dans le gouvernement Matata 2. Pourquoi on a ce gonflement des membres du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas finalement un gouvernement budgétivore?
Je ne sais pas s'il s'agit d'un gonflement, il s'agit d'un éclatement de ce qui existait. N'est-ce pas? Pour plus d'efficacité, on a considéré par exemple que le ministère de l'information, des médias, devait être un ministère autonome par rapport, par exemple, à l'initiation. On a annexé l'initiation à l'enseignement primaire, etc. Je crois que ce qui est visé, d'abord, c'est l'efficacité et l'équilibre, j'allais dire, géopolitique au sein du gouvernement pour justement donner cette image emblématique de la cohésion nationale. Et donc, le chiffre 47, c'est pas la mer à boire. On a connu des gouvernements à 60. Je crois qu'il faut d'abord viser l'efficacité. Ils sont 47, ils ont 700 recommandations.
Alors, parmi ces 47 membres, la plupart quand même de ceux qui composent ce gouvernement Matata 2, ce sont des chefs des partis politiques. Est-ce que c'est une récompense à ces chefs des partis politiques de la majorité?
Ce n'est pas une récompense. C'est une situation tout à fait normale. Le chef, dans toute organisation, c'est non seulement le garant, c'est aussi le représentant. Et donc, lorsqu'il faut chercher quelqu'un de représentatif, en général, c'est le chef, à moins qu'il ne désigne quelqu'un d'autre, ou qu'il y ait plusieurs places à occuper. Donc, c'est pas, faut pas chercher des chichis là où il n'y en a pas. L'essentiel, je le maintiens, c'est l'efficacité, l'essentiel, c'est la cohésion nationale, l'essentiel, c'est la situation ou l'amélioration de la situation sociale de nos populations.
C'est pas un gouvernement politique pour préparer 2016?
Mais tout gouvernement politique. Le politique, c'est ce qui concerne l'ensemble des intérêts d'un État par rapport à technocratique qui ne concerne qu'un aspect. C'est un gouvernement forcément politico-technocratique, si vous voulez.
Technocratique?
Les deux.
Technocratique et politique?
Ah oui, bien sûr.
Merci, André.
Il y a des ministères de souveraineté qui sont hautement politiques. Il y a des ministères techniques comme le budget, les finances. Ça coexiste.
Mais le ministère des Affaires sociales a été supprimé, action humanitaire. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ce ministère en RDC?
Non, l'intitulé n'a pas beaucoup d'importance. Peut-être qu'on a reporté la fonction et le rôle de ce ministère dans un autre ministère.
Merci André Alain Atundu Matamu Congolais, secrétaire général du Front des démocrates congolais pour le développement d'un parti politique de l'opposition. Comment vous analysez ce gouvernement Matata 2?
Merci beaucoup madame pour l'opportunité que vous nous donnez. S'il faut faire une analyse du gouvernement Matata 2, nous pensons que c'est le même train qui est en train de marcher, qui est en train de rouler sur un chemin que nous avions déjà dit que c'est un chemin sans avenir meilleur. Et c'est tout à fait normal qu'au niveau de l'opposition, au niveau de la majorité, qu'ils arrivent à ménager comme ils veulent leur gouvernement. C'est de leur droit. Mais nous estimons pour notre part qu'avec cette configuration qui venait d'être donnée, ça nous inquiète un peu et ça nous donne la possibilité de voir comment les amis ne sont pas en mesure de respecter ni la Constitution de la République, ni les différents engagements qu'ils sont en train de prendre.
Je vais donner... Les amis de la majorité, vous voulez dire?
Oui, les amis de la majorité. Je vais donner un cas. J'ai suivi le président Atundu. Il vous a dit que c'était un gouvernement. Vous lui avez posé une question nette. C'est un gouvernement restructuré ou de la cohésion nationale? Il vous a dit de la cohésion nationale, mais ça sort de sa bouche. C'est un gouvernement restructuré, donc c'est un remaniement. Et dans ce remaniement, vous allez comprendre, il y a quelques jours que le budget est en train d'être traité au niveau du Parlement, qui pourra être voté d'un moment à l'autre, et on passe de 35 à 47. Et c'est-à-dire, tout ce qui a été créé maintenant n'a jamais été budgétisé, même prévu, pour que vous compreniez où est-ce qu'on va nous amener et où est-ce que nous allons. En plus, on dit que c'est un gouvernement de cohésion nationale parce que c'est parmi les objectifs qu'on a confiés à ces gouvernements et on estime qu'il doit être là pour matérialiser les recommandations de concertation. Je ne sais pas. Et qui étaient en concertation. Ils étaient là, et la société civile, et la soi-disant opposition qui les avait rejoints, que nous nous avions qualifiés des amis qui étaient avec nous, qui nous avaient quittés pour aller élargir la majorité. Et vous n'avez qu'à voir ce qu'on leur a donné. Je comprends, c'est de leur droit. Sur 47, on réserve 7 ministères. Et d'ailleurs, sur les 7 ministères, vous parlez de la cohésion, madame, vous savez, tout de suite, là, vous avez suivi un communiqué, le MNC a dit qu'il ne fait pas partie de ces gouvernements. Et tous ceux qui sont partis...
Il a décidé de radier ou d'exclure les membres du MNC qui se retrouvent dans le gouvernement.
Voilà une façon de dire qu'il n'y a pas une cohésion, parce que quand il y a une cohésion, vous devez vous mettre d'accord sur certains principes et sur la participation. Mais je les reconnais que c'est de leur droit d'avoir accepté l'élargissement de leur majorité. C'est tout à fait normal, c'est légitime et c'est constitutionnel. Mais je pense que c'est un gouvernement...
Donc, pour vous, vous pensez que c'est la continuité du gouvernement Matata 1?
Mais une continuité dans la conflictualité, au niveau de la même famille politique elle-même. Figurez-vous, madame, vous venez de soulever quelque chose. Un gouvernement qui est là, qui a comme objectif de penser peut-être au social de notre peuple, mais qui supprime le ministère. Et on veut vous dire que cette dénomination se retrouve dans... Non, mais pourquoi? Pourquoi chercher à voiler certains? Je pense qu'on pense que pour le moment, ce qui était plus important, c'est de s'occuper d'abord du social et du vécu quotidien des citoyens. Vous voyez qu'il n'y a rien. Et je vais même aller plus loin pour vous dire, c'est un gouvernement qui est sorti hors respect de la Constitution. Et il n'y a même pas, vous lui avez posé la question, même pour respecter les quotas des femmes de 30% prévus par la Constitution, on est incapable de le faire. Même pour respecter la représentativité nationale, on est incapable de le faire. Vous n'avez qu'à voir sur les 26 nouvelles provinces. Il y a de ces nouvelles provinces qui ne se retrouvent pas dans ces gouvernements. Comment on va parler d'un gouvernement comme celui-là qui est un gouvernement de la cohésion nationale ou de l'unité nationale? Je vous donne un cas, il y a la province de Lomami qui n'est pas dans ces gouvernements. Le territoire de Cabinda n'a jamais eu un ministre jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que ce territoire n'appartient pas à la République? Donc ce n'est pas un gouvernement qui est là pour la cohésion nationale, ce n'est pas un gouvernement qui est là pour réellement matérialiser les biens fondés de notre peuple.
Avec l'entrée du MLC dans ce gouvernement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de cohésion? Parce que l'opposition qui a pris part aux concertations nationales se retrouve dans ce gouvernement. Pourquoi vous refusez de parler de cohésion?
Madame, ne nous voilons pas la face. Disons-nous la vérité. Nous connaissons et nous avons les testeurs au niveau de notre population. Aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, on sait que l'opposition, c'est l'IDPS, l'opposition... c'est l'INC, l'opposition, c'est le MLC, et je ne vais pas citer que les amis de l'opposition ne m'en tiennent pas, parce que je ne saurais pas citer tous les autres partis. Et quel est ce parti de l'opposition que vous avez vu dans ces gouvernements de soi-disant de la cohésion nationale?
Mais vous avez parlé du MLC tout à l'heure.
Mais la preuve est que ceux qui ont tenté de commettre cette erreur, qui ont accepté d'être débouchés, ont été chassés à la minute. Donc le MLC ne fait pas partie de ces gouvernements. Donc comprenez qu'il n'y a pas d'opposition dans cette affaire. Vous n'avez qu'à leur même poser la question. Ils ont parlé de leur concertation. Qui sont ceux de la société civile qui sont dedans? Allez-y comprendre. Nous comprenons que c'est tout à fait normal qu'il y ait un gouvernement de l'élargissement de la majorité. C'est de leur droit de continuer à le faire.
Mais avec la présence, je veux revenir sur le MLC. Est-ce que l'opposition ne se sent pas menacée avec l'entrée du MLC, même si vous dites qu'il y a un communiqué qui exclut les membres du MLC qui ont accepté d'intégrer le gouvernement de cohésion nationale? Est-ce que l'opposition ne se sent pas menacée par
non.
ça, finalement?
Madame, nous sommes très contents et très rassurés que quand vous optez pour être dans l'opposition, vous devez avoir les nerfs solides et vous devez avoir les pieds sur terre. C'est tout à fait normal que les amis, lors d'un chemin, d'un parcours, ceux qui se fatiguent, il y a ceux qui se retirent, il y a ceux qui estiment qu'ils peuvent prendre de la tangente, qui abandonnent la course. Nous ne sommes pas gênés, nous sommes très rassurés, et nous sommes rassurés de notre victoire. Nous continuons avec notre chemin parce que l'avenir est meilleur et notre peuple trouvera son compte dans ce que nous avions amené comme lutte.
Professeur Moïla Tchimbi, docteur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France, peut-on parler de gouvernement de cohésion nationale hein?
Ben, évidemment, ça dépend de ce qu'on entend par cohésion nationale. C'est probablement un gouvernement d'ouverture dans toutes les démocraties, en République démocratique du Congo ou ailleurs. Il est des moments où, dans l'histoire des peuples, une majorité, un président de la République, décide pour des raisons évidentes ou non évidentes d'élargir le gouvernement, de l'ouvrir à son opposition. Et dans le cas de figure ici, on a un gouvernement d'ouverture vers l'opposition ou une partie de l'opposition. Bon, on peut l'appeler gouvernement d'ouverture ou gouvernement de cohésion nationale. Si on entend par le fait d'ouvrir, de remettre dans le gouvernement une partie totalement ou partiellement des opposants, on ne peut pas se chamailler sur le terme, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agit là d'un gouvernement d'ouverture lié au remaniement gouvernemental. Et d'ailleurs, le président de la République, en le faisant, d'une part, il est dans les compétences que lui donne l'article 78 de la Constitution, c'est-à-dire, il part du postulat en reconduisant M. Matata Ponyo qu'il a une majorité, et que cette majorité gouverne réellement, et en reconduisant le Premier ministre, il est resté dans cette conviction. Et d'ailleurs, il faut rappeler que c'est cette personnalité de l'opposition ne vient que faire l'appoint. Le gouvernement de la République n'a jamais manqué de majorité. M. Matata n'a jamais manqué de majorité. C'est pour des raisons politiques, cohésion nationale ou autre chose, que le président de la République a bien voulu ouvrir le gouvernement à quelques membres de l'opposition. Donc, il a bien respecté le principe constitutionnel selon lequel la gouvernabilité est liée à la présence d'une majorité, et d'ailleurs le Premier ministre appartient à la majorité législative, et c'est tout à fait normal. Alors, l'autre élément, à mon avis, c'est que le président de la République a pris une décision que nous qualifions autrefois de discrétionnaire. Savez-vous qu'il y avait une tempête ici au lendemain de concertation? Il y a eu même des groupes et des sous-groupes qui se créaient au motif qu'on a attendu longtemps, que le gouvernement n'a pas été constitué. À l'époque, nous soutenions la thèse selon laquelle le chef de l'État est libre de choisir son gouvernement quand il veut le choisir et qu'il ne peut pas céder au chantage de tous ceux qui sont venus à tort ou à raison, soit pour les concertations nationales, s'il y a péril en la demeure, ou bien juste pour chercher des postes. Donc,
alors, attendre une année, est-ce que ce n'est pas trop quand même?
Ce n'est pas trop si la République est bloquée. Le gouvernement de M. Matata continue à conduire les affaires de la République, même si c'est une conduite K1K, dans le sens où il n'était plus question de prendre des décisions nouvelles. La gestion des affaires courantes, ça continuait. Je ne pense pas qu'il y ait eu des fléaux auxquels le gouvernement n'a pas pu faire face, parce que c'était un gouvernement qui conduisait les affaires courantes. Donc rien n'a échappé ni au président de la République ni à son gouvernement. Donc, à mon avis, il n'y a rien eu de particulier à souligner qui aurait été fait autrement que quand les ministres avaient toute leur fonctionnalité avant le décret du Premier ministre leur demandant de ne plus prendre des nominations ou engager les responsabilités du gouvernement sur telle ou telle activité particulière.
Alors, il y a cet auditeur, professeur Bienfait, qui nous écrit de Bukavu, Sutkivu, Bienfait et Mushindi, qui dit ceci: le gouvernement publié hier soir n'est nullement un gouvernement de cohésion nationale, car les deux grands partis de l'opposition, à savoir l'UNT et l'UDPS, n'y participent pas, et donc c'est un remaniement qui s'est effectué au sein du gouvernement de la majorité présidentielle et qui n'a rien à faire avec ou rien à voir avec la cohésion nationale.
Ben, disons que ça dépend. Vous savez, il y a toujours des bagarres sur les mots. Cohésion nationale, s'il y a cohésion, ça veut dire qu'on tend la main à certaines personnes ou à certaines formations qui ne sont pas dans la majorité présidentielle. Si on parle de l'ouverture, c'est qu'on ouvre le gouvernement à ceux qui n'y sont pas ou qui n'étaient pas censés y être par le fait même qu'ils appartiennent à l'opposition. D'ailleurs, l'argument que vous venez d'entendre tout à l'heure, si le MLC officiel a décidé de chasser en son sein ceux qui ont accepté d'entrer au gouvernement, on est là dans...
On peut toujours parler de cohésion.
On est là dans les turbulences qu'on a connues avec l'UDPS, hein, qui a eu des élus et qui n'a pas voulu que ces élus participent à l'Assemblée nationale, alors que le pouvoir constitutionnel d'un élu, c'est, lorsqu'on est député, d'aller voter les lois et de parler, prendre la parole, s'exprimer, contrôler le gouvernement. Il n'y a que ces deux fonctions-là que les parlementaires exercent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal que d'assumer la responsabilité de leurs actes? Alors, dans ce cas de figure ici, ce qu'il faut dire, c'est que la procédure est compréhensible en temps de crise. Par exemple, en temps de guerre, on peut parler du gouvernement de salut public, comme on en a connu en 64 avec Moïse Tshombe. Mais à la longue, si une majorité qui n'a rien à craindre, comme cette majorité-ci, qui n'a jamais manqué à son gouvernement, alors si on ajoute un appoint de quelques opposants, d'abord, c'est insignifiant parce que ça ne change absolument rien dans la capacité du gouvernement à se gouverner ou à se contrôler, parce qu'il a sa majorité parlementaire, et en plus, ça pervertit un peu le cadre démocratique. Dans une démocratie normale, on a besoin d'un gouvernement avec sa majorité et d'une opposition. Donc, c'est clair pour tout le monde. Alors, sauf évidemment des cas graves de guerre. Sinon, en temps normal, ça ne vaut
pas
la peine.
Merci, professeur. On vous redonne la parole tout à l'heure. En train d'aller à tout, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga ou Kassai Occidental.
Théophile Chamba à Kananga ou Kassai Occidental. Quand j'analyse l'équipe Matata 2, il se dégage qu'il y a une force pesanteur politique de ce gouvernement. Donc, nous sommes partis du gouvernement des technocrates vers un gouvernement des chefs de partis politiques et des secrétaires généraux. Or, l'expérience démontre qu'un homme politique, quand il est aux affaires, ce n'est pas pour agir au nom de la population ou pour les intérêts de la population, mais c'est pour ses affaires politiques.
Réaction.
Une sentence certainement injuste. Parce que la vocation de l'homme politique, c'est d'agir et de réfléchir pour l'ensemble de la nation. Et donc, je ne vois pas à quoi il fait allusion. Ce sont les hommes politiques qui prennent la responsabilité, n'est-ce pas, de traiter les affaires de l'État comme un boulot, si je puis ainsi m'exprimer. Et donc, ils prennent tous les risques physiques, les risques intellectuels, l'encadrement, et ils font des dépenses intellectuelles, des dépenses physiques. C'est dans leur fonction, c'est dans la nature de leur fonction. N'est-ce pas ? Un homme politique identifie les intérêts de la population, les intérêts de l'État, et se charge de les appliquer, soit à l'issue des élections, soit à l'issue d'une situation de légitimité généralement quelconque.
Alors il y a cet auditeur, Henri Bakoumania de Kinshasa, qui dit ceci, mieux vaut tard que jamais, enfin le gouvernement tant attendu est arrivé, même si on ne va pas noter des changements notables, car l'actuelle équipe gouvernementale ne sera que le prolongement du précédent. Il estime qu'il n'y aura pas de changements avec cette nouvelle équipe.
D'abord, sur le plan morphologique, vous avez noté la présence non seulement de vice-premier ministre, mais la présence de secrétaire d'État. Ensuite, c'est une équipe plus ample, n'est-ce pas ? C'est passé à 47. Ensuite, ce gouvernement...
Ministre d'État, pas secrétaire d'État.
Vous avez compris, n'est-ce pas, ministre d'État. Ensuite, les objectifs de ce gouvernement, c'est réaliser les 700 recommandations de concertation nationale. Donc ils doivent se mettre au boulot plutôt que de chercher des poux, comme on dit ici. Ils doivent se mettre au boulot. Eh bien, ils seront jugés sur leur capacité à consolider la cohésion nationale, sur leur capacité à diminuer ou à améliorer tant soit peu la situation de nos populations. N'est-ce pas ? Quant aux turbulences auxquelles le professeur a fait allusion, je crois que c'est tout à fait démocratique, sans entrer dans les affaires intérieures de MLC, je crois qu'il y a une certaine logique dans leur participation au gouvernement, parce qu'ils ont participé aux concertations, et quand le président a clôturé les concertations, il a dit qu'il y aurait un gouvernement ouvert à ceux de l'opposition qui avaient participé. En ce moment-là, je n'ai pas entendu de réaction. Et en plus, sur le plan interne, je pense. J'espère que toute la procédure a été respectée, notamment la procédure de l'habeas corpus, le contradictoire.
Alors, gouvernement de cohésion nationale, on l'a vu plusieurs, il y a eu beaucoup d'entrées dans ce gouvernement, des gens qui ont eu à occuper certains postes ministériels dans l'État. Est-ce qu'on était obligé de les reconduire ? On ne pouvait pas prendre d'autres personnes pour occuper ces postes ?
Voilà. La formation du gouvernement, ce sont les partis qui fournissent. Si votre parti a, disons, 10 députés et que vous avez droit à 5 ministères, c'est le parti qui forme, qui propose, n'est-ce pas ? En concertation ou en accord avec le président de la République, finalement, il dit non, nous prenons tel, nous prenons tel. Donc, je pense que si vous pensez aux chefs de parti, secrétaires généraux, ce sont des figures emblématiques. C'est eux qui dirigent les partis et qui sont l'incarnation même de l'unité de commandement dans chaque
pays. Finalement, on constate que ce sont les mêmes personnes qui dirigent ce pays.
Mais on donne pas l'occasion à tout le monde. La direction d'un pays est toujours une oligarchie. Malheureusement, vous ne voulez pas qu'on se réfère à l'étranger. Mais comment expliquer qu'en France, un tel ministre, Mitterrand, a commencé depuis l'époque coloniale jusqu'à devenir chef de l'État ? C'est pas un an.
Merci André Alatoundou. Martin Konkolé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Maître Papi Kassema à Kinshasa. Cette nouvelle n'est pas du tout surprenante, car le chef de l'État n'a fait qu'honorer sa promesse. Elle, au contraire, devrait mettre en cause son mérite d'honorer ses engagements. Cependant, je ne peux pas parler du gouvernement de cohésion nationale étant donné que certaines couches sociales telles que la société civile et les partis politiques influents de l'opposition tels que l'IDPS et l'INC ne s'y trouvent pas. Quoi qu'il en soit, les gens qui composent la nouvelle équipe gouvernementale doivent être des patriotes compétents et de haute probité morale. Sinon, ce serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul.
Une réaction, Martin Mokonkole.
Je crois que Maître Papi, il a raison, il parle, il a donné son point de vue. Il estime que le chef de l'État a honoré sa parole. Je ne sais pas, moi ça ne m'engage pas. Le chef de l'État avait promis.
Au moins on a un gouvernement.
Bon, c'est de son pouvoir de remanier quand il veut. Je ne veux même pas qu'on en discute. Il a honoré que c'est de son pouvoir. Il peut remanier quand il veut, sa majorité, il désigne tout celui qu'il veut. Il n'y a pas à dire qu'il a honoré. Quelle promesse il a honoré ? Par rapport au social de notre peuple ou par rapport au gouvernement ? Si c'est pour le gouvernement, c'est son droit, il peut le faire quand il veut, il n'y a pas un problème. Ça, heureusement que Maître Papi, il confirme qu'il n'y a pas la cohésion nationale. C'est ça ce qui est plus important pour nous. Est-ce qu'il faut sortir un gouvernement pour le sortir seulement ou il faut sortir un gouvernement pour résoudre un problème ? Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Il n'y a pas la cohésion nationale. Le social est en difficulté. Il n'y a pas moyen qu'on se mette d'accord sur un processus électoral pour qu'on arrive à organiser des élections. Nous avons de véritables problèmes politiques dans ce pays. Il y a la guerre à l'Est, il y a les troubles partout. Donc la situation sociale ne marche pas. Et il y a de ces choses qui nécessitent...
Et vous pensez que son nouveau gouvernement ne sera pas en mesure de résoudre tous ces problèmes ?
En tout cas, je vous dis sincèrement, je ne leur prête pas vraiment... la chance de pouvoir changer beaucoup de choses parce que je sais qu'il n'y a rien qui a changé.
Vous le dites parce que vous êtes dans l'opposition ?
Non, mais c'est par rapport à tout ce qu'il y a comme progrès, par rapport à ce qu'il y a comme vérité. Vous-même, et c'était le moment d'aligner des politiciens. Ce n'est pas mal, c'est une très bonne chose. Et dans quelles circonstances ? Et dans quelles conditions ? Et dans quel environnement ? J'ai beaucoup d'appréciation envers certains qui ont été nommés, qui sont des vaillants militants, qui sont des vaillants combattants, mais est-ce que vraiment ils vont résoudre quel problème ? Je ne pense pas. Parce qu'on n'a pas changé, nous avons les mêmes trains. Les mêmes trains sont en train de filer avec les mêmes machinistes. Et je me demande si les passagers qui entrent là vont modifier quoi que ce soit. Je ne pense pas.
Avec des objectifs, avec d'autres objectifs, comme l'a dit André Alain Toudrou.
Quel objectif ? Je l'entends lui dire, il insiste sur les 700 recommandations de concertation, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est ce qu'on lui a dit ? C'est ce que l'ordonnance, normalement, cette équipe a dit ? Il ne faut pas qu'on arrive à dire des choses qui n'ont pas été dites.
Mais ça a été dit au cours de concertation nationale.
Mais ces concertations-là, c'est tout à fait normal qu'une famille se mette d'accord avec ses enfants, avec ses cousins, avec ses neveux. Mais est-ce que cela veut dire que c'est ça le problème de tout un pays ? Les concertations ont été faites par une famille politique. Je crois qu'il y a des problèmes politiques dans ce pays qui ne peuvent être résolus qu'en se mettant autour d'une table. Comme, je peux même rappeler quelque chose qui est plus importante. Il y a eu l'accord d'Addis Abeba. Là où notre pays a pris cet engagement de signer cet accord, qui a estimé qu'il y a des problèmes au niveau du fonctionnement des institutions. Il y a un problème par rapport à la cohésion nationale, il y a un problème par rapport au processus électoral. Il faut que les gens se mettent autour d'une table pour qu'ils arrivent à trouver une solution. Et nous n'arrivons pas à respecter. Ce sont des engagements comme ça que moi j'estime qu'ils pouvaient être respectés pour qu'on dise on a tenu parole et on a respecté les engagements. Ces choses-là ne sont pas faites. Et aujourd'hui, ce qui se passe, moi je crois, madame, prenons date aujourd'hui, après 100 jours, retrouvons-nous, vous allez voir que la situation sera plus difficile que celle que nous avons
vous
aujourd'hui.
Vous êtes très pessimiste, Martin Mokonkole.
C'est la réalité, c'est la vérité. C'est la réalité, c'est la vérité.
Donc vous n'accordez aucune chance à ce nouveau gouvernement.
Moi, je crois que je ne vais pas faire trop de commentaires, mais je sais.
Alors que vous venez de vanter certains politiques qui sont entrés dans ce gouvernement.
Mais ils sont dans un système où ils ne pourront pas facilement réussir. C'est ça le problème. Ils sont dans un système qui ne les permettra pas vraiment de bien réussir. Et je l'ai dit, j'ai pris avec vous, prenons date, 100 jours après, retrouvons-nous, on va évaluer ensemble.
Professeur, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
J'adore Igilima à partir de Bukavu, chef lieu de la province du sud Kivu. Le gouvernement Matata 2, tel qu'il est publié hier, prouve que le chef de l'État a toujours tenu parole en dépit du retard avec lequel il exécute ses promesses. Étant la clé de voûte de toutes les institutions, le président de la République essaie d'éviter les interférences politiques et surtout les tâtonnements qui peuvent découler de la prise de décisions précoces. Par ailleurs, Je me demande si les 7 membres de l'opposition présents dans ce gouvernement nous permettent-ils de les qualifier de large union nationale comme ceci annoncé.
On revient encore sur le terme cohésion nationale, professeur.
Mais évidemment, notre ami de Bukavu confirme ce que nous disions tout à l'heure. Le président de la République exerce là les compétences exclusives que lui donnent la Constitution et la loi. C'est lui-même qui choisit le gouvernement quand il veut le choisir, quel que soit le temps qui passe. Et on a eu tort de lui mettre une pression supplémentaire, ça ne servait à rien. Alors, est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale? Alors, c'est une polémique, évidemment. C'est pas avec 7 personnes sur 47 qu'on peut parler d'un gouvernement de large ouverture. Bien sûr, le gouvernement est ouvert, mais il est ouvert à 7 personnes qui représentent certains partis politiques, naturellement. Mais globalement, le terme de gouvernement de concertation nationale ou d'union nationale, il ne faut pas abuser des termes non plus, là aussi. Mais il faut savoir raison garder en disant l'intérêt, à mon avis, c'est demain qu'on sera, c'est au pied du mur que l'on voit le maçon. Qu'on ait 50 ministres ou qu'on en ait moins, qu'il y ait un gouvernement totalement ouvert ou plus ou moins ouvert ou un peu fermé. En gros, ce n'est pas ça qui peut émouvoir les Congolais. Ce que les Congolais attendent, à tort ou à raison, c'est que le gouvernement agisse, qu'il gouverne, c'est-à-dire qu'on réponde aux besoins des gens. Les Congolais ont des besoins qui, depuis que le président de la République a commencé son deuxième mandat, même depuis le premier, on a parlé des chantiers. L'eau, ben, les gens ont besoin d'eau. L'électricité, les gens ont besoin d'électricité. L'éducation, les routes, les ponts et les chaussées, bien entendu, on voit des boulevards, on voit quelques avenues, et certains ponts ont été jetés ça et là. Ben, c'est ça que la population attend. Il faut que ce travail continue, et au lieu de distraire la République dans des incantations exclusives ou non, il faut vraiment que le gouvernement gouverne. Et le temps qui reste, on est quasiment à mi-mandat.
Alors, il y a Maître Jean-Paul Lumbulumbu qui nous écrit de Goma. Il dit ceci, gouvernement de cohésion nationale, promesse non tenue par Kinshasa, très très faible présence des femmes. Même l'opposition dite républicaine a été cocufiée. Excusez-moi. L'entrée de l'opposition dite républicaine au gouvernement est une preuve que Kinshasa veut fragiliser l'opposition politique en RDC et instaurer une dictature voilée.
Ben, évidemment, nous sommes dans ce pays, la République démocratique du Congo, même si beaucoup de gens n'y croient pas encore, nous sommes dans un État démocratique. Les gens sont libres d'avoir leur opinion et cette opinion est respectable. Mais ce n'est pas parce que l'opinion est respectable qu'il faut faire des anathèmes à l'endroit des autres. Non, je pense que nous devons savoir raison garder. Ceux qui ont le droit de critiquer, c'est dans un État démocratique, ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement ont le droit de le critiquer, sans aller en prison ou être bastonné, etc. Et c'est ce qui existe dans ce pays, malheureusement, même si beaucoup de gens ne le voient pas au quotidien. Donc, qu'on attende des miracles d'un gouvernement, ça c'est l'espérance des gens qui croient, mais honnêtement, dans l'esprit humain et dans les réalités des choses, on attend toujours plus de gouvernements. Les gouvernements ne donnent que ce que peuvent donner les hommes en situation, c'est-à-dire selon les moyens, selon les conjonctures, etc. Ce gouvernement ne fera pas des miracles, pas plus que celui qui l'a précédé. Ça dépend de quels moyens, quels sont les problèmes qui seront pris à bras le corps. Vous savez, il y a eu ces fameuses concertations nationales ont été liées à la guerre à l'Est. Alors, la guerre a été, à mon avis, gagnée, même s'il continue encore des poches de tuerie et de massacres.
Merci.
Mais il faut gagner la paix.
Merci, professeur. André Alain Tundou, il y a certaines personnes qui se posent la question ou qui se disent que la cohabitation ne sera pas facile entre le Premier ministre Matata Mponyo et les chefs des partis politiques qui sont membres de ce gouvernement. Est-ce qu'ils vont accepter de se faire dirigé par Matata Mponyo?
C'est la première fois que les chefs de parti font partie d'un gouvernement dirigé par Matata ou par n'importe quel premier ministre. L'adhésion dans un gouvernement,
est-ce qu'il sera libre de ses
décisions? C'est un acte républicain et un gouvernement fonctionne d'après un règlement intérieur. Si le gouvernement prend une position de gouvernement Et qu'un ministre n'est pas d'accord, il démissionne ou, comme on dit, de l'autre côté, il boucle la gueule. N'est-ce pas? Donc, je crois qu'il faut éviter des procès d'intention, comme l'a dit le prof, de nature à nous distraire. Alors, je reviens sur les 700 recommandations. C'est parce que c'est à partir des problèmes, des 5 thématiques, politique, économique, réconciliation, DDR, décentralisation, et dans, là-dedans, chaque thématique a pris au moins 100 résolutions, notamment par exemple le problème du processus électoral, la mise en pratique de des dispositions concernant les provinces, sur les nationalités, etc. Donc c'est très important.
Ce gouvernement saura mettre en pratique ou en œuvre ces 700 recommandations?
Mais les 700 ne sont pas appelés à être mises en pratique le même jour. Non, c'est un long processus. Et la continuité de l'État nous permet, n'est-ce pas, d'espérer que même si le gouvernement Matata arrive où le mandat se termine, n'est-ce pas, dans 2 ans, eh bien les autres, on n'aura qu'à continuer. S'il y a toujours des problèmes à l'Est, il faut bien intégrer les gens. Le DDR sera toujours là. La décentralisation, c'est toujours un problème d'actualité. Alors, les options économiques fondamentales, c'est toujours un problème d'actualité.
Merci André Latour. On va finir avec vous par cette question de Fabrice Kougaya qui nous écrit de Goma. Il dit ceci, le gouvernement Matata 2 n'est qu'une nouvelle majorité constituée pour appliquer le plan B de la révision constitutionnelle. Son avènement n'offrira rien de spécial que c'est que le précédent n'a pas pu faire. Brièvement, ça sera votre conclusion.
Procès d'intention, ici, n'est pas question de révision constitutionnelle. Deuxièmement, je crois qu'il faut éviter d'être les rentiers des malheurs du peuple congolais. Il faut souhaiter son malheur pour être heureux. Merci. Non. Il faut de la tolérance, respecter le pensée autre de l'autre.
Merci André Alatundou. Martin Mokonkole, vous allez devoir aussi conclure.
Oui, madame, je crois que nous avons compris tous que nous avons besoin de la cohésion nationale et la cohésion nationale ne peut venir que par le respect de certains engagements que nous avions pris pour les comptes de la République. S'agissant du gouvernement, je crois, c'est un gouvernement qui a été mis en place par l'élargissement de la majorité présidentielle, c'est de leur droit de continuer. Et je précise ici qu'il n'y a pas la participation de l'opposition, il y a eu un débauchage.
Oh, vous avez tendu la main, vous avez refusé.
Non, je crois que nous sommes restés respectueux des textes. Nous avions dit, depuis que nous avions dénoncé qu'il y a eu des problèmes qui existaient, qu'on se retrouve autour d'une table, et nous avons été accompagnés par la communauté internationale, et nous estimons que si nous respectons les principes dans ce sens-là, nous serons autour d'une table. Mais si c'est une réunion familiale, et ça ne nous concerne pas.
Merci Martin Mokongole, professeur Moïla Chiembi.
Madame, je pense que patriotisme oblige, aucun Congolais digne de ce nom ne peut souhaiter la défaite de son propre gouvernement, même si c'est un gouvernement de la majorité à laquelle on n'appartient pas. Il faut toujours souhaiter, dans l'intérêt supérieur de la nation, qu'un gouvernement, quel que soit son bord, puisse réussir.
Et donc il faut laisser le temps au temps et voir comment cette nouvelle équipe va travailler.
Il faut juger aux actes.
Dans les 100 jours, comme l'a proposé.
Dans les 100 jours et au-delà, naturellement.
Merci, professeur Moïla. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guy Maté, Berry Franklin Luchaka, Alain Roug, sous la supervision de Pélé Fipela Mondo, qui m'ont aidé à préparer et réaliser pour vous cette émission. La mise en onde était assurée par Alain Goy, au micro Kevin Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radio. Okapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.